France Inter, il est 13h. Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Une longue file d'attente devant la mairie du Teil en Ardèche ce matin. 200 habitants ont dormi dans des gymnases après le tremblement de terre. École fermée, église fragilisée. Nous ferons le point des dégâts avec Christophe Vincent et Pierre-Jean Pluvy. Et le premier invité de ce journal sera le directeur des centrales à l'agence de sûreté nucléaire. Celle de Cruas est à l'arrêt. Nos centrales nucléaires sont-elles correctement préservées du risque sismique? Plusieurs villes israéliennes en état d'alerte. Nouvel épisode entre Israël et le djihad islamique, épisode de violence. Un chef palestinien tué, des roquettes sur le sud du pays. En Bolivie, l'armée prend le contrôle de la paz après plus de 24 heures de violence. Le président Morales est en fuite, en route vers le Mexique. Nous dresserons le bilan de ce premier président indigène dont le mandat s'achève dans la plus grande confusion. La précarité tue. Mot d'ordre à Lyon ce matin. Manifestation à l'appel de deux syndicats après le suicide d'un étudiant de 22 ans. La précarité têtu, témoignage d'Eliott.
Moi, par exemple, j'ai le droit qu'à 250 euros de bourse. Mes parents peuvent à peine m'aider. J'ai environ 200 euros de loyer. Après, j'essaie de faire mes courses et je mange des pâtes. Donc, moi, j'en ai marre aussi, en fait.
Reportage complet Mathilde Imbertier tout à l'heure. Le retour à la une d'une figure des années d'attentat en Corse. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Charles Pierry, jugé cet après-midi à Bastia.
Oui, un homme qui dérange beaucoup certains de ses anciens amis nationalistes. Un homme qui fait l'objet de toutes les attentions des services d'enquête anti-mafia. Mais qui sera jugé cet après-midi pour une simple affaire d'abus de confiance.
À tout à l'heure pour les détails dans cette édition encore. La chronique santé de Daniel Messager à l'approche de l'hiver, zoom sur la luminothérapie. L'initiative du jour contre la surconsommation et s'y acheter d'occasion donner droit à des réductions d'impôts. À 13h30, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Une page de publicité.
Ah oui, face à la crise écologique, le monde de la pub est un tournant de son histoire. Synonyme d'hyperconsommation, ce secteur doit se réinventer. Une éco-communication est-elle possible? On va en parler avec le publicitaire Gildas Bonnel.
Et vos éco-coups de fil au 01 45 24 7000. À tout à l'heure Mathieu. Avant cela, nous marierons le rap et la musique symphonique. Quatrième soirée hip-hop symphonique ce soir à Radio France. Le directeur artistique du spectacle, Issam Krimi, est notre invité. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Le clocher de l'église au centre de la commune du Teil, dans l'Ardèche, reste très fragile. Un peu plus de 24 heures après le tremblement de terre, entre 200 et 250 habitations abîmées, 20 à 30 maisons effondrées, école fermée, voilà le paysage ce matin. Et devant la mairie, une longue file d'attente. Des habitants, environ 200, ont passé la nuit dans des gymnases. Des habitants ont besoin de conseils ou doivent accomplir des démarches. Reportage Christophe Vincent.
Devant la mairie, ils sont encore une trentaine à attendre leur tour pour se faire recenser. Prélude à toute reconnaissance et indemnisation, c'est le cas de Delphine.
C'est pour se faire recenser, dire les dégâts qu'on a eus. Et puis un expert va venir voir si on peut rentrer chez nous ou pas. Ils vont surtout aller au plus pressé, donc ceux qui ont des maisons pratiquement écroulées. Donc on sait que ça va être long, mais il faut prendre notre mal en patience maintenant.
Quels sont les dégâts chez vous?
Des fissures. C'est pas écroulé, mais ça fait peur. On ne sait pas si c'est des murs porteurs, si les fissures sont plus profondes. Et puis les enfants qui ont toujours très très peur aussi. Donc on essaye de tout faire pour les rassurer.
En face, les pompiers ont installé un périmètre de sécurité autour de l'église Charles de Foucault, très mal en point, l'évêque de Viviers, Jean-Louis Balza.
La voûte s'est écroulée, l'église est ravagée de l'intérieur. Alors Dieu merci, il n'y avait personne dans l'église à ce moment-là, ça c'est formidable. Mais donc l'église menace maintenant de s'effondrer totalement, et le clocher en particulier qui mesure 30 mètres de haut. Ceci dit, il n'y avait personne, et moi je pense surtout à tous ces gens qui ont perdu leur maison et qui sont à la rue aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, on a de la chance, quoi.
L'autre église, celle de Mélas, est quasiment effondrée. Au Teil, Christophe Vincent, France Inter.
En direct avec nous, Pierre-Jean Pluvy de France Bleu de Romardèche. Bonjour Pierre-Jean.
Bonjour.
La préfète a tenu une conférence de presse ce matin. La question clé, évidemment, c'est celle du relogement.
Bien évidemment, c'est héberger maintenant les 200-250 personnes dont on sait très bien qu'ils ne pourront plus habiter leur appartement et leur maison. Alors, on sait d'ores et déjà que les gymnases seront rouverts ce soir. Ça n'était pas prévu, mais il est très difficile de trouver des appartements ou des chambres d'hôtel pour des gens aussi rapidement. Donc, les gymnases rouverts ce soir. Par ailleurs, la préfecture du Rhône va financer, la préfecture de région va financer une partie des chambres d'hôtel, des appartements qui normalement doivent être fournis aux sans-abri en cas de vague de froid vont être réquisitionnés pour essayer de reloger tout le monde. Le gros travail, le deuxième gros travail, c'est les experts qui sont en train de sillonner la ville et les bâtiments pour juger de leur solidité. Il est parfois des bâtiments tout à fait debout, où il n'y a aucune fissure. Puis quand on rentre à l'intérieur, on s'aperçoit que des poutres maîtresses sont fissurées. C'est le cas, par exemple, du lycée Xavier Mallet, 750 élèves ici au Teil. On sait d'ores et déjà qu'il sera à nouveau fermé demain et peut-être jusqu'à la fin de la semaine. C'est encore un point d'interrogation, car les dégâts sont là extrêmement importants.
Merci Pierre-Jean Pluvy. Parmi les conséquences de ce séisme, la mise à l'arrêt de la centrale nucléaire de Cruas, à une dizaine de kilomètres de là. Bonjour Rémi Cato.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des centrales nucléaires à l'Agence de Sûreté Nucléaire. À l'arrêt Cruas, non pas parce qu'elle est abîmée, mais par mesure de précaution, c'est bien cela ?
Oui, c'est bien ça. Aucun dommage n'a été constaté sur l'installation à ce stade. Donc à la suite du séisme d'hier, un mouvement de sol important a été enregistré au niveau de la centrale nucléaire de Cruas. Et donc la SN a demandé à EDF de vérifier si les seuils qui nécessitent d'arrêter les réacteurs et de contrôler le bon état des matériels étaient dépassés. Ces seuils étant effectivement dépassés sur l'installation de Cruas, des contrôles sont nécessaires.
Qu'est-ce qu'on va chercher précisément ?
Alors, les vérifications seront menées par EDF, la SN les contrôlera. Elles consisteront à contrôler que les matériels importants pour la sûreté n'ont pas été endommagés. Donc ces contrôles précis et la durée nécessaire sont encore en cours de discussion entre EDF et la SN. Et donc je ne peux pas être très précis à ce stade sur les contrôles nécessaires.
Ça veut dire qu'un redémarrage vendredi, comme l'indique EDF en précisant que c'est vraiment indicatif, n'est vraiment pas garanti, hein ?
Je ne peux pas me prononcer sur ce calendrier, il n'a pas été discuté à ce stade avec EDF.
Rémi Cato, les centrales sont construites pour résister, chacune à un séisme d'une certaine magnitude. Pour Cruas, c'est 5,2, à l'épicentre hier, on était à 5,4. Est-ce que ça veut dire que la centrale était vraiment en danger hier ?
Alors, les centrales sont dimensionnées pour faire face à des séismes importants. Le principe, c'est de prendre en compte le séisme le plus important qui est intervenu dans la région, historiquement dans la région. Le principe, c'est de prendre ensuite rajouter deux marges. D'une part, d'augmenter l'intensité de ce séisme. Oui. Et d'autre part, de faire l'hypothèse que ce séisme intervient sous la centrale. Donc, exactement sous la centrale. Alors, hier, en fait, la centrale de Cruas a connu un mouvement du sol. Et ce mouvement du sol, en fait, il était 5 fois inférieur à celui pour lequel la centrale est dimensionnée. Donc la centrale n'a pas eu à faire face à un séisme exceptionnel au regard de celui pour lequel elle est dimensionnée.
Sur le parc de centrales nucléaires, il y en a qui sont plus exposés au risque sismique et qu'on regarde d'un peu plus près depuis hier ?
Alors c'est pas depuis hier, c'est depuis toujours. En fait, les centrales ont été dimensionnées pour faire face au séisme, à un séisme important. Les niveaux de séisme sont réévalués régulièrement, donc on prend en compte, les séismes qui interviennent et puis l'amélioration de l'état des connaissances. Alors effectivement, il y a des centrales qui sont situées dans des zones plus sismiques que d'autres, par exemple celle de Cruas, celle de Tricastin, mais elles sont dimensionnées pour faire face à ces séismes plus importants, donc elles sont renforcées par rapport aux autres.
Merci Rémi Cato d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions sur France Inter. Voilà ce qu'on pouvait dire l'évaluation des dégâts 24 heures après ce séisme en Ardèche.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
Une frappe israélienne ce matin à Gaza. Un haut commandant du djihad islamique et sa femme ont été tués. Un autre palestinien a été tué dans la matinée. Et la réplique du djihad islamique n'a pas tardé. Des tirs de roquettes vers Israël. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Correspondant de France Inter à Jérusalem. Frédéric, plusieurs villes israéliennes sont en état d'alerte depuis ce matin.
Oui, les sirènes ont retenti toute la matinée dans les localités du sud-ouest d'Israël, habituées aux tirs de roquettes. Citons Sderot, Ashkelon ou Ashdod au bord de la Méditerranée, juste à côté de Gaza. Mais des localités côtières plus éloignées comme Tel Aviv, la grande métropole économique, ont été placées en alerte. Et puis à Modine, beaucoup plus à l'intérieur des terres, à seulement 30 kilomètres de Jérusalem, une roquette a été interceptée par Iron Dome. Depuis ce matin, près de 150 projectiles ont été tirés depuis Gaza. dont l'essentiel détruit par la batterie de missiles antimissiles israéliens, au plus proche de la bande de Gaza. Les gens sont dans les abris, 1 million d'enfants et de jeunes restent à la maison, tout comme les salariés des secteurs non urgents. À Tel Aviv, seuls les gens qui ont un abri à leur travail peuvent y aller. Plusieurs lignes de train sont fermées, mais pas l'aéroport international.
Et ce matin, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a prononcé une allocution après donc cette opération contre le commandant du djihad islamique dont on va parler avec vous, Frédéric, dans un instant. D'abord, Benjamin Netanyahou qui en dit un peu plus sur la stratégie de son pays.
Israël ne veut pas d'une escalade, mais nous ferons tout ce qui est nécessaire pour nous défendre. Et je vous dis vraiment d'avance, ça peut prendre du temps.
Alors Frédéric, qu'est-ce qui a justifié la frappe contre ce responsable du djihad islamique qui s'appelle Abu Atta ?
Oui, alors selon Benjamin Netanyahou, il était le responsable militaire du djihad islamique, un mouvement soutenu par l'Iran. Il avait déjà organisé, je cite le Premier ministre, de nombreuses attaques contre Israël et surtout, il s'apprêtait à mener d'autres attaques. D'autres attaques étaient imminentes. À présent, Bruno, il faut savoir si le djihad islamique va reprendre sa campagne de tir et aussi comment va réagir le Hamas, vous savez, la faction au pouvoir à Gaza. Le djihad islamique le met au défi, en se présentant comme le plus combatif face à Israël. Alors le Hamas va-t-il rentrer dans ce jeu et frapper l'État hébreu ou bien au contraire retenir ses coups? Une délégation égyptienne est arrivée ici pour faire la navette entre le gouvernement israélien et le Hamas et pour lui demander de ne pas passer à l'action.
Et l'Union européenne appelle à une désescalade rapide entre Israël et Gaza. Merci Frédéric Mettezou en direct de Jérusalem. Un avion pour Mexico à l'intérieur, le président bolivien en fuite. Evo Morales, il a fait escale ce matin à Asuncion, Paraguay, mais la destination finale, sauf surprise, c'est bien le Mexique qui lui offre l'asile. Evo Morales laisse derrière lui un pays en proie aux violences, des casernes de police pillées dans plusieurs villes. L'armée prend les choses en main à la passe. Et la victoire d'Evo Morales à la dernière présidentielle était très contestée, soupçon de fraude. Après plus de 3 semaines de manifestations, il a fini par céder, lâché par l'armée et la police. Même s'il promet de revenir, c'est un tournant après 13 ans au pouvoir pour le premier président indigène en Bolivie. C'est l'une des figures de la gauche qui avait pris la main en Amérique latine dans les années 2000. Alors quel bilan laisse-t-il ? Question posée par Olivier Poujade à Christine Delfour, elle est professeure des universités à Marne-la-Vallée, spécialiste de la Bolivie.
Sa gestion du pays, ce modèle économique qu'il a mis en place est un succès. Et surtout, pour la première fois, un État a redistribué les mannes du pétrole, du lithium et autres, et a su concilier un modèle économique, je dirais capitaliste, un modèle, si vous voulez, d'économie communautaire, des communautés indiennes, et une économie informelle quand même qui pèse beaucoup en Bolivie. Donc il est arrivé à articuler tout ça et l'État redistribué. Et ça, c'est de ce côté-là une réussite qu'aujourd'hui, avec tous ces événements, on oublie. Mais il est quand même responsable depuis la convocation de ce référendum en 2016 du mécontentement général. Il a été coupé de ses classes moyennes qui avaient voté pour lui. Et d'un autre côté, les mouvements sociaux qui le soutenaient, et en particulier les syndicats, aussi se sont divisés parce que ses bases étaient aussi mécontentes uniquement d'une chose, c'est-à-dire de son manque de respect des procédures démocratiques du pays.
Et Evo Morales a reçu le soutien ce matin de Diego Maradona, beaucoup plus au nord en Amérique latine, une visite historique à Cuba, le roi d'Espagne, à quelques jours des 500 ans de la création de la Havane et sur l'île. Première visite d'État d'un monarque de l'Espagne, l'ancien pays colonisateur. En France, comment lutter contre le communautarisme ? Est-ce que cela passe par l'interdiction des listes dites communautaires au municipal de mars ? Deux difficultés, comment définir ce qu'est une liste communautaire et quelles mesures prendre conforme à la Constitution. À ce sujet, deux figures de la droite étaient reçues ce matin par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, Bruno Retailleau et Xavier Bertrand. Tous deux avaient des propositions à lui faire. D'abord, Cécilia Arbona, liste communautaire, de quoi parle-t-on ?
De candidats qui ne respectent ni la laïcité, ni la souveraineté nationale. Quel que soit leur score par le passé, le danger est bien réel, estime Xavier Bertrand.
Aux élections européennes, certains me disent, c'est anecdotique, vous vous rendez compte, il y a eu que 29 000 voix. On attend quoi ? Qu'il y en ait 290 000, qu'il y en ait 2 millions 9 ? Et des candidats qui voudront quoi ? Imposer notamment des créneaux réservés dans les piscines, dans les cantines, des menus, des repas qui sont servis, je pense qu'il faudra, le moment venu, toucher à la Constitution, bouger la Constitution. Parce qu'en 1958, la laïcité, ça n'avait pas la même importance qu'aujourd'hui.
Concrètement, Xavier Bertrand souhaite modifier l'article 4 de la Constitution. Et dans le viseur de l'élu de droite, il y a l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans de France.
Union des démocrates musulmans de France qui rejette, on le précise, le terme de communautarisme. Et dans son programme, il y a des sujets généraux, mais aussi le développement de la finance islamique, de la filière halal ou la lutte contre l'islamophobie, ce terme controversé. Ce parti veut présenter une cinquantaine de listes aux municipales. Alors pour mieux le connaître et le connaître en coulisses, Cécilia, vous avez rencontré en Seine-et-Marne un conseiller municipal qui a adhéré à ce mouvement et qui en est revenu.
Il s'appelle Nizar Bourchada, il a 38 ans, c'est un ancien de l'UDI et il est aujourd'hui élu d'opposition à Brie-Comte-Robert. En janvier 2015, il se sent stigmatisé en tant que musulman, il rejoint donc l'UDMF, il y reste 6 mois et claque la porte.
J'ai rejoint l'UDMF en juillet 2015. Pour les connaître de l'intérieur, c'est une vraie usurpation. Il n'a de démocrate que le nom, il n'a de musulman que le nom. J'ai découvert que c'est un parti qui n'est absolument pas structuré. Et en plus de ça, aujourd'hui, je pense que l'UDMF participe à stigmatiser une communauté musulmane, puisqu'on le sait très bien aujourd'hui. Les Français de confession musulmane votent sur l'ensemble de l'échiquier politique. Donc je ne comprends pas qu'on accorde autant d'importance à un micro-parti.
Pour Nizar Bourchada, qui se définit comme farouchement républicain et sereinement musulman, on donne, vous l'avez entendu, trop d'importance à ce parti qui agite, selon lui, des peurs à chaque scrutin avant de se remettre tranquillement en sommeil.
Merci Cécilia Arbona. Par ailleurs, l'Assemblée nationale examinera le 3 décembre une proposition de résolution pour mieux définir et lutter contre l'antisémitisme, proposition déposée par La République En Marche. La précarité tue, slogan d'une manifestation ce matin à Lyon, à l'appel de l'UNEF et du syndicat solidaire, cela après le suicide d'un étudiant de 22 ans qui s'était immolé par le feu devant le Crous de Lyon. Dans la ville, pour France Inter, Mathilde Imberti.
C'est sa petite amie qui lance les slogans devant le Crous de Lyon. Des centaines d'étudiants, mais pas uniquement, sont réunis. Cette immolation a secoué les consciences. Les derniers mots de l'étudiant sont inscrits à la bombe sur la façade de l'établissement.
Alors, il est écrit « Mon dernier souhait, c'est aussi que mes camarades continuent de lutter pour en finir définitivement avec tout ça. »
Ses amis expliquent qu'il triplait sa deuxième année de licence, que sa bourse lui avait été retirée, que la demande de reconduction exceptionnelle avait été refusée. Même avec une bourse, la précarité est notre quotidien, dénonce ces jeunes. Elliot a 25 ans.
Moi, par exemple, j'ai le droit qu'à 250 euros de bourse. Mes parents peuvent à peine m'aider. J'ai environ 200 euros de loyer. Après, j'essaie de faire mes courses et je mange des pâtes. Donc, moi, j'en ai marre aussi, en fait.
La précarité rend malade et peut tuer, dit le syndicat solidaire étudiant, qui avance ce chiffre. 8% des étudiants ont tenté de mettre fin à leur jour. Maintenant, il faut nous écouter, demande cette camarade de promotion de l'étudiant immolé.
Et qu'on comprenne qu'il y a vraiment des revendications derrière. Un salaire étudiant et là, avoir plus d'APL, plus de bourses, des choses comme ça.
À Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
La circulation est toujours perturbée sur l'autoroute A9 près de la frontière espagnole. C'était le cas ce matin. Des manifestants pour l'indépendance de la Catalogne sont installés près du col du Pertu. Et revoilà Charles Pierri, l'une des figures de l'ex-FLNC Canal historique en Corse. À 69 ans, il a été arrêté cet été dans une affaire d'abus de biens sociaux, très loin des plasticages des radicaux corses des années 80. Charles Pierri passe aujourd'hui devant le tribunal de Bastia. Il est accusé d'avoir bénéficié sans payer de voitures de location pendant 2 ans. Question Emmanuel Leclerc, est-ce qu'il est un rescapé des années de règlement de compte ou est-ce qu'il aurait repris du service?
Écoutez, Charles Pierri porte les stigmates d'une tentative d'assassinat. Il y a notamment perdu un œil. L'homme, âgé de 69 ans, vous l'avez dit, a disparu de la circulation durant de longues années. On le disait en Amérique du Sud ou encore à Barcelone. Charles Pierri, l'ami du président de la collectivité territoriale corse, Jean-Guy Talamoni, dont il est l'un des proches. Condamné par le passé pour association de malfaiteurs, Charles Pierri est aujourd'hui accusé d'avoir utilisé gratuitement effectivement les voitures d'une agence de location fondée par Jean-François Philippi, assassiné en 1994. Et c'est bien ce passé qui a ressurgi il y a 2 ans à peine quand Charles Pierri est réapparu dans des réunions politiques en vue des prochaines municipales. C'est également son nom qui émerge dans des enquêtes sur des pressions liées à des marchés publics. C'est en tout cas un renseignement qui a permis à la police judiciaire d'interpeller Charles Pierri l'été dernier sur cette affaire présumée de voitures de location gratuites. La perquisition à son domicile aurait permis de découvrir des armes, mais les deux témoins sur place ont refusé de signer le procès verbal. Ce sont donc soit les témoins qui ont eu peur, Bruno, soit les policiers qui ont déposé des armes dans l'appartement. L'enquête de la police des polices est toujours en cours.
Et alors que Charles Pierry se rappelle au souvenir des chroniqueurs, une figure du milieu marseillais vient de mourir de vieillesse à 89 ans, Jackie le Mat. Son fait d'armes était d'avoir survécu à une fusillade en 77, 7 balles de 11.43 et 15 plombs de chevrotine. C'est l'agence France Presse qui donne ce décompte. Comment nous inciter, nous tous, à moins consommer? Et si les achats d'occasion donnaient droit à des réductions d'impôts? L'idée un peu intéressé tout de même, émane du patron du site Le Bon Coin et de la CAMIF, la mutuelle d'assurance. Comment est-ce que ça peut marcher, Hélène Philly?
Eh ben, il s'agit de créer un abattement de 15% avec un plafond à 3000 euros par an pour tout achat de seconde main, donc le transat bébé acheté d'occasion en ligne, la paire de chaussures dénichée dans une friperie et même certains objets neufs éco-conçus. Il faut encourager le consommateur qui a entamé une transition écologique, juge Antoine Joutot, le directeur général du Bon Coin.
J'ai l'impression que cette transition, elle est silencieuse. Et qu'aujourd'hui, il faut la mettre sur le devant de la scène. Et quoi de mieux qu'une mesure fiscale pour le faire, pour les aider à accélérer cette transition qui bénéficiera à tout le monde, toute la société. C'est pas une mesure finalement très égoïste, c'est une mesure sociétale.
Voilà, c'est pas une mesure égoïste, dit-il. Évidemment, ça doperait ses propres ventes, mais Le Bon Coin est déjà fort d'une croissance annuelle de 15%. En clair, il n'en a pas besoin. Et le crédit d'impôt marcherait aussi pour payer le réparateur qui vous évite de racheter un lave-linge à la première panne. Laetitia Vasseur, cofondatrice de l'association Halte à l'obsolescence programmée.
Tout ce qui pourra faciliter l'accessibilité des produits durables, réparables et de seconde main, c'est vraiment une bonne chose. Aujourd'hui, au Sénat, l'association HOP a obtenu un fonds de la réparation qui va permettre d'avoir des factures moins chères pour la réparation.
Acter un fonds pour la réparation est une chose, créer une nouvelle niche fiscale en est une autre. Alors que Bercy cherche à les réduire, ce ne sera sans doute pas facile de convaincre la majorité.
Merci Hélène Philly, à 13h21. La chronique santé, Daniel Messager, bonjour
Daniel. Bonjour Bruno.
Nous sommes le 12 novembre, il fait nuit de plus en plus tôt, le spleen des soirées commencé trop tôt commence à nous prendre le moral. Le manque de lumière peut causer des dépressions saisonnières. Et pour y remédier, Daniel, on utilise de plus en plus la luminothérapie.
Oui, c'est un traitement. On parle effectivement de traitement qui est de plus en plus plébiscité par les patients, alors qu'ils ressentent réellement ce que vous avez décrit, ce malaise, manque de lumière entraînant tristesse, pas d'énergie, une dépression saisonnière. Mais le fait de s'exposer à la lumière devant une lampe, c'est ça la luminothérapie, aurait aussi des effets pour la dépression sévère. Le docteur Pierre-Alexis Geoffroy, chef adjoint du service de psychiatrie de l'hôpital Bichat-Beaujon, l'a expérimenté.
Sur la dépression saisonnière, on va agir de manière chronobiologique sur ces modifications liées à l'hiver, en quelque sorte en donnant un signal d'été, en exposant les gens le matin à la luminothérapie. On sait aussi que cette lumière donc perçue dans la rétine sur des photorécepteurs va aussi synchroniser directement des voies sérotoninergiques qu'on connaît, puisqu'on entend parler de la sérotonine comme étant l'hormone de la dépression. Et donc la lumière va avoir un effet directement sur ces axes-là également, ce qui pourrait expliquer leur efficacité dans la dépression, efficacité qui donc est démontrée maintenant scientifiquement. On a un certain nombre d'études cliniques chez des patients qui présentent ce qu'on appelle un épisode dépressif caractérisé, qui montre qu'il y a une efficacité de la luminothérapie dans ces épisodes dépressifs caractérisés, qu'ils soient saisonniers ou non saisonnier.
Bon, on va pouvoir balancer toutes les boîtes d'antidépresseurs.
Alors c'est vrai qu'on sait depuis longtemps que les Français en consomment trop et trop longtemps, alors pour autant on n'en est pas encore complètement là.
La luminothérapie a pas pour but de remplacer les antidépresseurs. Je pense qu'il faut voir ça plutôt comme une stratégie supplémentaire. Il n'y a pas de supériorité d'un traitement antidépresseur ou luminothérapie. Notre étude montre aussi que la combinaison lumière plus antidépresseur est supérieur à antidépresseur seul. Donc face à une dépression sévère, finalement, ce qu'on a envie de faire, c'est plutôt de donner les deux d'emblée. Ça doit être encadré quand même médicalement, cette prescription de luminothérapie, parce qu'il y a des contre-indications, notamment ophtalmologiques. Si la rétine est en mauvaise santé, à ce moment-là, on peut avoir des lésions sur la rétine. Donc il faut que ça soit un peu suivi. C'est un traitement, et il faut que son médecin soit au courant.
Alors il reste que les vertus de la luminothérapie sont encore apparemment sous-utilisées, même si la pratique doit être encadrée, on l'a entendu. Reste aussi le problème du coût, car pour une pratique à domicile, il faut une lampe de bonne qualité, et pour cela, il faut compter autour de 200 euros.
Oui, tout de même. Merci Daniel Messager. Tout de suite, une autre bonne idée pour lutter contre la déprime. Ça se passe dans une des plus belles salles de concert de Paris, à Radio France. Ce soir, l'Orchestre Philharmonique de Radio France s'en canaille avec des rappeurs. Hip-hop symphonique, c'est la 4e édition. Et le directeur artistique de cette aventure est notre invité. Bonjour Issam Krimi.
Bonjour.
Pianiste, formation classique au conservatoire, puis le jazz et le rap dans les oreilles depuis l'enfance. Là, vous sortez des répétitions, on va en entendre quelques petits extraits. Ça, c'est Chila, hein, c'est ça ?
Exactement.
Et c'est vous au piano ?
Exactement.
Parlez-moi du plaisir que vous avez. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette histoire d'associer rap et musique symphonique ?
C'est de réunir des grands artistes de la musique populaire d'aujourd'hui.
Oui.
C'est ce qu'est le rap de nos jours.
Oui.
Et puis, à titre personnel, c'est de retrouver une soirée, ce qui a toujours été ma vie musicale, qui a toujours été pleine de classiques, de jazz, de rap, de rock. Et là, en une soirée, on réunit le tout.
Est-ce qu'on peut faire sonner n'importe quel morceau de rap avec un orchestre symphonique ?
Alors non, pas du tout. C'est très important. Les machines font partie de la culture musicale populaire et
ouais.
Elles sont maintenant, elles font partie de leur histoire, elles
ouais.
font partie, on danse dessus, on a une émotion par rapport à ça. Et il y a certains titres qui sont moins intéressants à mettre avec des musiciens. Pour le coup, la machine est plus intéressante.
Il faut trouver des titres qui vont bien avec des cuivres, avec des cordes, avec des bois.
Moi, en tout cas, dans ma démarche, pour moi, c'est pas faire de la musique classique avec le hip-hop, c'est vraiment faire du hip-hop. Mais on va lui donner une dimension symphonique. Donc, à la fois, je veux à tout prix respecter les morceaux initiaux, les artistes, ce qu'ils ont voulu dire, aussi bien musicalement qu'au niveau de leur texte, et à la fois que nous, en tant que musiciens sur scène, on retrouve un plaisir, que ça soit pour les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, que pour mon groupe The Ice Cream, qui s'occupe de la salle des machines au niveau du concert ce soir.
Alors, qu'est-ce que ça donne, petit extrait de hip-hop symphonique de l'année dernière, Esprit Noir.
Soit. Ok, toi t'es barrière, le métal fait sonner les portillons. Suis pas ma danse et les mortuaires. J'suis dans transit aéroportuaire, j'suis dans voiture avec portugaise, repère indo et jamaïcaine.
Qu'est-ce qu'ils vous disent les musiciens du symphonique là quand ils travaillent comme ça avec Esprit Noir?
Ah bah ils sont heureux.
Enfin, ouais.
C'est marrant parce qu'on essaye. En tout cas, j'ai dans le processus de travail, je fais en sorte qu'on soit dans les habitudes de chacun, dans les sessions de répétition, de manière à ce que tout le monde soit confortable.
Ouais.
Mais ce qui se passe en fait pour eux, la vraie différence pour les musiciens de l'orchestre, c'est le soir du concert.
Ouais.
C'est-à-dire que tout d'un coup, l'auditorium où ils sont plutôt habitués à jouer leur répertoire avec un public plutôt sage, dirons-nous, tout d'un coup, ils ont 1500 personnes qui sont peut-être assis, mais qui vont se lever très très vite et qui feront part très très vite de leur joie d'être là.
Et ça, ils aiment, j'imagine, les musiciens.
Ah bah, en fait, moi, j'ai été le premier surpris sur une édition, c'est que je jouais tranquillement. Moi, je les ai un peu sur le côté, donc parfois, je les vois pas.
Ouais.
Et puis, je sens quelque chose sur scène qui se passe, je savais pas quoi, et je retourne la tête, et là, j'ai vu tout l'Orchestre Philharmonique de Radio France jouer le dernier morceau debout.
Excellent.
Voilà. Parce que l'ambiance amenait ça et ils l'ont fait de leur plein gré, quoi.
C'est à 20h30 ce soir.
20h30 exactement.
Alors c'est déjà complet, mais on peut écouter sur Move.
Exactement.
Notre cousine de Radio France, il y aura Chila, Nino, Rimka et SCH. C'est aussi avec la compositrice Camille Pépin. Bonne soirée, Issam Krimi.
Eh ben merci beaucoup.
Et merci d'avoir passé
merci
une tête en studio.
Ouais.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants, noir ou vert. Pruneau rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Elodie Calac.
Un ciel d'averse s'est installé avec pas mal de nuages, quelques éclaircies, quelques averses également. Des averses fréquentes sur l'ouest des Pyrénées. Pareil de la Normandie au nord et aux Ardennes avec de l'orage en prime. On attend encore quelques averses de neige en montagne vers 800 mètres sur les Vosges, 1000 mètres sur le massif central, 1400 sur les Pyrénées. De la Méditerranée aux Alpes et en Corse, là on profite du soleil. Mistral et Tramontane soufflent fort jusqu'à 90 km à l'heure. Il fait un peu frais, 7 degrés à Reims cet après-midi, 9 à Amiens, Paris, Nancy et Dijon, 10 degrés à Limoges, à Lyon, 11 à Brest, 12 à Agen, 16 du côté de Montpellier, de Bastia et 18 à Nice. Demain, encore beaucoup de nuages, mais moins d'averses.